Bonjour à toutes et à tous. On est reparti pour une émission 100% foot. Évidemment, je suis en compagnie de Patrick.
Oui.
L'inamovible Patrick. Toujours présent. Thierry est aujourd'hui est absent pour des raisons professionnelles. Il sera de retour parmi nous très bientôt. Mais nous avons la chance d'avoir un invité de choix et de cœur. Ça, c'est un avis personnel car c'est un ami, je ne vais pas le cacher. Paul, qui est avec nous pour aujourd'hui.
Bonjour.
Nous allons pouvoir ouvrir le bal, je dirais, de la Ligue 1, revoir cette journée de football qui a été plus ou moins intéressante pour certains et moins pour d'autres. On va parler également du foot régional, de Martigues, d'Aubagne et du football féminin qui concerne l'Olympique de Marseille. Patrick, veux-tu commencer à nous parler un petit peu des résultats de ce week-end ?
Oui.
On va parler de l'OM en l'occurrence.
Tu veux me déprimer, c'est
non,
ça ?
Allez, on ne va pas attaquer par cela. Voilà. On va justement, on va être obligé d'en parler. Il y a eu des résultats, je dirais, on va parler du championnat, hein. On en est aujourd'hui, donc...
Septième journée.
Voilà.
Bon, ça a été un match, donc, vendredi soir.
Oui.
Et le problème que j'ai, moi, c'est que quand on joue le vendredi, si on ne gagne pas, ça me pourrit mon week-end. Donc, ils m'ont pourri mon week-end. Et donc...
Tu n'es pas le seul.
Je plaisante, hein, mais enfin, je veux dire, c'est quand même en partie vrai. Et on a vu une équipe assez inquiétante, oui. Parce que bon, je pense qu'il y a un peu de la fatigue, certainement, mais une équipe où il y avait quasiment tout le monde qui était hors du coup. Il y avait Greenwood qui a fait un match, on dira honorable, mais pour un joueur de son niveau, on pouvait espérer mieux. Carboni qui a été lancé enfin et qui a été transparent, qu'on n'a quasiment pas vu. Mopé qui a trouvé le moyen, alors je ne sais pas comment, mais enfin à se faire expulser sur deux cartons débiles. Et donc on a une équipe qui globalement a été décevante parce que physiquement pas dans le coup. Angers a très bien joué le coup. Hein. On a vu
voilà, c'était pour synthétiser ton propos. Avant de parler de tout un chacun et de chaque joueur, on peut parler de l'ensemble de l'équipe. Évidemment que l'équipe en elle-même, les raisons physiques, on pourra toujours en parler. En même temps, si on part de la défense, et je dirais qu'il y a quand même quelques invraisemblances, la relance en est une. J'ai des problèmes personnellement avec certains joueurs de notre défense. Sur les côtés, c'est très très incertain, hein, parce que on n'a pas besoin de nommer les joueurs, on sait très bien à qui on a affaire, côté droit comme côté gauche. Les relances sont vraiment plus que difficiles. Le milieu de terrain n'a plus la capacité, je dirais, de passer le deuxième rideau et on a une maîtrise du ballon qui reste stérile. Et quant à l'attaque, tu parlais de Greenwood, qui est notre joueur de talent, pour ne pas dire de grand talent, qui est en dedans en ce moment depuis quelques matchs, et j'ai l'impression qu'il veut jouer tout seul, n'ayant plus trop confiance en ses partenaires. Et la pointe offensive, en l'occurrence, qui jouait contre Angers, on a redonné la chance à Wai, à Mopé, pardon, qui a été évidemment dans les bons coups, mais aucune combinaison, aucune possibilité de jeu avec ses partenaires, et au niveau offensif, aucune profondeur. Greenwood qui essaie malgré ce de faire ses dribbles, et on est en train de perdre un petit peu, non pas en intensité, elle est relative, mais en justesse. Voilà, c'est le gros problème de ce jeu que nous demande de Zerbi, enfin que nous demande à ses joueurs. Le côté énergivore, c'est très bien, mais la justesse dans la relance, on joue à la baballe, hein. C'est comme ça que je vois les choses, et on n'a pas la possibilité de créer quelque chose de concret et surtout pas de finir des actions. Voilà, Paul, tu peux dire un mot sur ce match que tu as pu voir certainement face à Angers vendredi ?
Ben moi, le match, surtout, joue à la maison.
Oui.
Jouer à la maison, c'est délicat pour nous.
Salé, oui, tout à fait, complètement.
Les joueurs, parce que là, en plus, ils ont un épée de Samoklas sur le dos.
Oui.
Parce que depuis qu'ils...
Il y a eu un début de saison, ce match face à Reims, qui a été compliqué. D'ailleurs, Reims qui remonte le bout de son nez, qui est quatrième, qui nous talonne au même nombre de points que nous.
Moi, je trouve qu'il y a, il y a plus ce jeu que, qu'ils avaient pendant les 3-4 premiers matchs. Ouais. Ça déroulait, ça jouait au football, c'était des footballeurs, ils venaient. Et ils nous montraient ce qu'ils avaient dans, dans les jambes et dans la tête et dans le cœur. Oui. Et là, tandis que là, depuis qu'ils ont, ils ont acheté le joueur de la Juventus,
Rabiot, oui.
Et là, il y a eu un, il y a une cassure par rapport aux les joueurs. Ils se sont dit, bon, on n'est plus regardé parce que nous, les footballeurs, on joue beaucoup au mental. Alors, et ça, ça, oui, ça a déstabilisé.
Alors, je ne sais pas si oui, ça coïncide avec l'arrivée de Rabiot. Hein. Maintenant, est-ce que ça correspond à cela? Bon, évidemment qu'il y a des soucis physiques pour beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a plus la même intensité d'ailleurs. Et voilà, que la fatigue prend le dessus. Manque de justesse dans les passes, dans les relances, la base de départ. Et voilà, l'impression et qu'on est à côté de la plaque complètement sur les deux derniers matchs.
Et même Merlin manque, excuse-moi.
Et Merlin manque cruellement sur ce côté gauche. Ouais.
Merlin manque énormément, parce que c'est vrai que les... Après, il y a un autre élément. Hein. Moi, j'ai regardé, après, j'ai regardé en différé les commentaires sur le match. L'entraîneur d'Angers a bien expliqué qu'ils avaient très bien observé l'OM. Ouais. Donc, ils t'attendent dans l'axe, ils te ferment au complet. Et donc, du coup, les mecs, ils savent comment tu joues.
À l'image du match face à Strasbourg.
Un peu ce que disait Paul, c'est une équipe en début, c'est beaucoup une équipe de contre, ultra rapide. Et là, les mecs te laissent le ballon, ils viennent. Et donc, ils jouent bas. Et tu fais ce que hier soir PSG a fait à Nice. C'est-à-dire que Nice, en deuxième mi-temps, ils ont joué derrière, ils ont joué dans leurs 30 mètres. Et Paris, ils n'ont pas trouvé. Ils ont égalisé sur un tir contré, mais ils n'ont pas trouvé. Et nous, c'est peut-être pour ça que Greenwood, il joue plus perso, parce qu'il essaie de faire la différence tout seul. Alors qu'il jouait plus.
Tout à fait.
Alors, par contre, ce que tu as dit qui est très juste, c'est l'absence de Merlin. Merlin, les trois défenseurs, le latéral droit et les deux centraux font une défense à trois, et lui s'intègre au milieu et à l'aile gauche. Et ça permet à Luis Enrique de rentrer dans l'axe et de jouer derrière l'attaquant. Là, tu peux pas. Parce que Garcia a fait un bon match. Hein. Garcia, il a fait un bon match. Il a été très bon.
Un match honorable, mais...
Oui, mais il a pas les qualités de Merlin, qui est un ancien attaquant. La qualité de passe, la qualité de dribble, il a pas. Et donc, il est effectivement, c'est pas le même niveau. Même si, je le redis, il a fait un très bon match.
C'est ça.
Voilà. Et après, tu as un problème sur ta qualité de relance. Balerdi n'a pas été excellent. Alors que d'habitude, c'est lui le meilleur relanceur. Cornelius, il fait ce qu'il peut, c'est pas extraordinaire. Et c'est vrai que tu as eu un problème là-dessus. Et Rabiot n'est pas encore dans l'équipe. C'est-à-dire, il est rentré, mais tu sens que physiquement, il est un peu juste. Voilà. Parce que quand il tournera en plein régime, Rabiot et Verne, ça devrait faire très mal.
Oui, pour moi, c'est la meilleure paire possible au milieu de terrain. Je vois pas d'autres associations.
Voilà. Après, tu as le problème, c'est que ton jeu demande des ailiers, tu les avais, ils ont fait un match moyen. Ton avant-centre, il s'est fait expulser comme une con. Enfin, comme une con.
Oui, n'ayons pas peur des mots.
On peut dire que l'arbitre, il a mis deux cartons jaunes en 3 minutes, qui était le premier, je n'ai pas compris.
Une fois n'est pas coutume. Hein.
J'ai revu les images, tu ne mets pas deux cartons en expulsant. Alors, il faut expliquer que c'est
parce qu'il... On peut parler de maladresse de la part de Mopé, mais bon, je suis quand même... Je m'inscris en faux contre le second jaune, en tout cas.
Oui. Même le premier, moi, c'est
le premier. Que je trouve un petit peu...
Voilà, quoi. Mais fort de café. Ouais. Alors, c'est peut-être que l'arbitre, il avait expulsé un Angevin à la 25e ou 26e. Pour un tacle dangereux, le rouge, il est normal. Et après, il a peut-être voulu compenser. Après, il y a un problème d'intelligence, entre guillemets. Un José Mourinho, il te dirait, fais attention, tu viens d'avoir un rouge en face, fais pas le con. Voilà. Et là, Mopé, il a fait en 3 minutes deux charges qui n'ont rien d'extraordinaire.
Mais en l'occurrence, elle n'était pas justifiée, une charge qui n'en était pas une sur le gardien de vue. Il a à peine effleuré, évidemment, qu'on a trouvé ça comme un petit jeu.
Il prend un jaune, et ça veut dire que 3 minutes après, tu ne vas pas essayer de tacler de côté un mec, tu as raté le ballon, tu as chopé le mec. Parce que là, voilà. Et donc, du coup, tu te retrouves à 10. Tu avais donc Carboni qui a joué en faux neuf jusqu'à la mi-temps. Mmh. Voilà.
On l'a utilisé dans le registre voilà. qui
Alors
n'est pas
déjà
le
déjà qu'il n'était pas terrible, il a rien fait. Ça allait mieux quand tu as fait rentrer l'anglais Jonathan Rowe, qui a été bon, qui a mis un joli but, qui a fait son match.
Je suis étonné qu'on ne le voit pas jouer, je dirais, comme titulaire.
Mais, voilà. Mais c'est vrai c'est que normalement, il a un Greenwood à droite, il a un Luis Enrique qui est très bon, qui défend et qui s'entend très bien avec Merlin. Ils ont fait la préparation ensemble à gauche. Donc, il le fait moins jouer. Mais enfin, c'est quand même lui qui l'a fait rentrer à la mi-temps, hein, pour avancer à la place de Wai, qui rentrait beaucoup plus tard. Oui. Et donc, tu as eu un problème, et Angers t'y a bien pris. Après, tu prends un coup franc, 3 minutes après avoir ouvert le score, tu prends un coup franc, où là, on peut peut-être pas rouler. Rouler, le coup franc, il est petit filet, hein. Oui. Il ne peut pas grand-chose, non. Mais... peut-être que le mur, moi j'ai revu les images.
Sur le positionnement, peut-être.
Le mur, tu sautes pas, le mec il te le met vraiment.
Excellemment frappé.
Voilà, il est très très bien frappé.
Rouli, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM hein, depuis
oui, le début. Oui, Rouli, oui, il est excellent.
Franchement,
et on peut le souligner voilà. Complètement.
Et là, ma foi, tu peux pas lui reprocher le but. Il est petit non, filet, il n'y a pas grand-chose. Par contre, peut-être que ton mur aurait pu intervenir, parce qu'il passe pas loin. J'ai vu les images. Tu te dis, voilà, tu es un peu limité. Et après ben, tu n'as pas été bon. Tu as marqué un but refusé logiquement. Tu as manqué de jus, tu as manqué de rythme.
Et de justesse, je dirais, dans les passes, dans les interventions, oui. Dans les relances. Comment trouver la profondeur à ce moment-là ouais. Profiter, je dirais, comme tu disais, des actions de contre, mais non. Et ils ont compris que nous, il n'y a que l'axe qui est bouché. Contre Strasbourg, nous avions eu le même problème. Oui, et oui. Par les côtés, on n'avait pas la possibilité, je dirais, de créer quoi que ce soit. Ouais. Alors, je ne vais pas parler nominativement, si, parler de notre arrière-gauche Brassier, de Murillo également. Bon, ben, je pense qu'il y a meilleur. Peut-être pas dans notre équipe, on fait pas ce qu'on a, mais sorti du premier rideau que parfois, quand il y a le pressing adverse, qu'on passe. Mais après, on n'a pas la réactivité. On n'a pas cette adaptation qui nous permet de vite trouver la profondeur et d'envoyer, je dirais... voilà, quelques...
L'équipe avait pendant les 3-4 premiers matchs, excuse-moi de te couper.
Oui, je t'en prie.
Mais par contre, là, comme il y a eu trop de changements aussi, parce que là, on a eu des blessés,
oui.
On a eu des changements, les latéraux, les suspendus, du coup, ce roulement, et même Wiesberg qui vient jouer stopper, lui, c'est un 6, lui, il me fait penser à Gary Stevens, à Deschamps, c'est le boss, c'est le patron, l'homme de terrain, on a trouvé, il y avait une assise défensive au milieu de terrain qui équilibrait tout.
Mais je pense tout à fait, Paul, complètement ce que tu dis. Il se trouve que lui, le mettre comme défenseur central, Holberg, c'est un contre-emploi. Kondombia est beaucoup mieux dans cette position. Enfin, on fait comme l'on peut. Mais Holberg, pour moi, est un joueur extraordinaire qui doit donner l'impulsion au groupe. Mais c'est vrai qu'à côté, je dirais, sur l'ensemble, ça ne suit pas. Et on n'arrive pas à créer du jeu. Voilà. Du jeu stérile, de la baballe, des petites
tu
passes.
Tu domines, tu archi-domines, mais après, moi j'ai constaté une chose, mais ça c'est depuis la première journée, à part Højbjerg, qui a une belle frappe, tu n'as pas de frappeur.
Non, oui,
et je me rappelle, parce que je suis un ancien du club, et des ultras, des abonnés et tout, je me rappelle d'un Franck Sauzé ou de mecs comme ça, les mecs qui de 25-30 mètres, ils allumaient. Et oui, mais quand tu prends cette saison, bon après, Wai.
OM Paris, là.
Voilà, contre Reims, Wai, il a raté les occasions, mais il y a deux actions sur des frappes où le gardien repousse et où le mec, il est sur le ballon, il le met au-dessus. Mais Højbjerg avait frappé, je ne sais plus qui était le second frappeur, je ne sais pas si c'était pas Greenwood qui frappe et que le goal repousse. Et des fois, quand tu as des défenses très basses qui défendent, parce que ils ont perdu un joueur, donc ils jouent à 10, ils ont joué derrière toute la deuxième mi-temps. Ils ont 2-3 contres où ils sont assez dangereux d'ailleurs, et où Rulli intervient.
Ça ne les a pas handicapés plus que ça.
Voilà, oui, ils ont joué derrière, ils ont fermé, mais c'est normal, ils sont derniers, ils viennent chercher un point, les mecs. Oui. Hein. Voilà, c'est que toi, tu n'as personne qui allume, et de 25-30 mètres, et puis sur les coups de pied arrêtés et les corners, tu n'as pas de joueur de tête. Bon, sans aller rechercher Daniel Van Buiten, le Belge, qui faisait 1m98 et qui marquait ses 8-10 buts par an de la tête. tous les coups de pied arrêtés, ben, tu n'as rien. Quoi.
Faut-il voilà. déjà se créer des situations offensives sur les côtés voilà. Et même le nombre de corners a été assez restreint oui. sur les deux derniers matchs. Il faut
ça n'a pas beaucoup. Et de toute façon, tu n'as pas un joueur de tête dominant qui peut te... Voilà. Parler de Sergio Ramos, où le mec, il montait et régulièrement, il mettait ses 5-10 buts par saison sur des coups de pied arrêtés.
C'est pas le joueur de taille qui fait un défaut, voilà. c'est la performance en elle-même.
Oui, après, tu n'as pas de grande baraque. Hein. Et c'est vrai que quand tu n'as pas de frappeur mi-distance et tu n'as pas une qualité de supériorité dans le jeu aérien, mm-hmm. mais qui te tiennent, hein, donc tu es gêné, tu peux pas assurer les trucs, eh ben, c'est obligatoire de jouer dans le jeu avec des dribbles. C'est peut-être pour ça que Greenwood a beaucoup tenté le dribble, parce qu'il n'y avait pas l'autre solution.
Il n'y avait pas de solution.
Et ouais. en particulier, comme il faisait beaucoup monter Luis Garcia, qui est monté sur le côté gauche, mm-hmm. pour remplacer Merlin, mm-hmm. Murillo jouait défenseur central. Mm-hmm. Il joue très replié, ça, ouais. tu joues à 3. Donc le mec, il n'a pas un ailier qui vient le doubler.
Ouais, oui.
C'est là qu'au stade, il y a des copains qui disaient Jonathan Clauss, il aurait fait.
Il aurait fait.
Là, le mec, c'est pas son truc. Quoi. Voilà, il fait ses matchs.
Parce que pour gagner, il faut aller de l'avant.
Il faut gagner, il faut rester dans la... Sachant que c'est dur de marquer, il faut se créer les occasions.
Qu'est-ce qui est plus dur dans le football ? C'est de marquer des buts. Mais faut-il se créer des occasions ? Mais la justesse technique nous fait cruellement défaut. Et on le voit bien, repartir de derrière, je l'aime ce jeu. Je suis assez d'accord sur cette pratique. Maintenant, faut-il avoir cette justesse ? Et non pas être hésitant et on n'arrive pas à accélérer, donner cette impulsion. Voilà. Dès que nous avons le ballon, qu'on passe un premier rideau... on n'arrive pas à enchaîner pour trouver un peu de profondeur, ne serait-ce que la préparer, la profondeur, c'est très bien, mais on n'arrive pas à se rapprocher du but adverse sans qu'il y ait, je dirais, de chamboulement complet. On a peur de se livrer, on est vraiment dedans en ce moment, j'espère que ça ne va pas durer, parce que là, bon, ben, le prochain match face à Montpellier, le 20, après cette mini-trêve, je dirais
international.
Et, ensuite, bon, ben, nous jouerons à Montpellier, nous recevrons, je ne vais pas répéter la date, parce que c'est une date importante pour moi.
C'est son anniversaire, on précise.
Le 27 octobre, on reçoit
le PSG.
Des gens d'une région plus septentrionale que nous.
Mais pour reparler de cette équipe que nous n'apprécions pas des tonnes.
Pas des tonnes.
Pas des tonnes. Mais hier, je les ai regardés hier soir, donc sur DAZN, contre Nice. Nice a fait la deuxième mi-temps devant ses buts. Et eux, ils ont fait pareil. Ils ont joué. Alors, ils ont la chance d'avoir une tire contrée qui trompe le gardien. Mm-hmm. C'est leur l'arrière gauche portugais, Nuno Tavares, qui a frappé. Et Nuno Mendes, pardon. Et qui a fait une belle frappe. Et que le ball a été légèrement dévié, le goal a été trompé. Mais sinon, ils sont restés. Ils ont. À la télé, ils te montraient le poteau de Marquinhos, mais il n'y a que ça.
C'était un combat de boxe.
Ils faisaient que des femmes. Et puis, ils ont un mec qui est un arbitre, Dante, qui arbitre à la place de l'arbitre. Hein. Non, c'est hallucinant, le mec. C'est lui qui arbitre. Quand il a fait mettre 2 cartons aux Parisiens. J'ai rien dit, c'était PSG. Mais les mecs, ils sont victimes de faute, ceux qui prennent les cartons. Mais enfin, bon, bref, il a été un peu space. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le truc, c'est que les mecs, ils te laissent venir. Et comme tout le monde a vu que Brest, ils ont joué au ballon, et même Lyon, tu gagnes à Lyon, parce que Lyon, ils font l'erreur d'attaquer.
De s'ouvrir.
Parce que tu égalises, tu prends l'avantage sur des comptes. Si jamais Lyon, ils jouent à la baballe, ils t'attendent derrière, c'est mort.
On ferme le axial, et puis après, il n'y a plus de solution.
Et les mecs, ils ont compris qu'avec l'OM, il ne fallait pas s'exposer aux contres.
C'est ça.
Comme avec Paris, il ne faut pas s'exposer aux contres. Donc Strasbourg, ils ont fait ça, ils ont joué, ils ont fermé. Et toi, parce que tu en es réduit effectivement à avoir des joueurs qui tentent le passer individuellement en dribble. Et on le voit avec Paris, avec Dembélé qui est un bon dribbleur, mais tu fais rarement des... c'est très très dur.
En ce moment, je ne vois pas des 3-4 touches de balle, les changements d'ailes, et de suite, tu reprends de voler, il y a but. Y a pas, le travail d'école qui se font à l'entraînement n'est pas reproduit. Il y a peut-être Lille, Brest, parce qu'ils sont déjà confiants, ils savent.
Oui, ils ont des équipes avec des joueurs depuis longtemps qui se connaissent.
Parce que nous, mais nous à l'OM, là, on avait trouvé l'équilibre de l'équipe. Les 3-4 premières journées, ça déroulait.
Oui.
Mais là, après cette trêve, vous allez voir, on va reprendre tout ce qu'il y a. Et on va revenir premier. Hein.
À notre décharge, il est vrai qu'un groupe est né, j'en suis persuadé, on s'en est rendu compte. Mais cela ne suffit pas.
Un bon entraîneur.
Voilà. Oui, un entraîneur qui est entraînant, comme dirait certains. Je pense qu'il fait l'adhésion de tout le monde, que personne ne va le lâcher. Ça serait vraiment préjudiciable que le public prenne en grippe, et j'espère que les résultats feront en sorte que ce ne soit pas le cas. Voilà, De Zerbi ou certains joueurs qu'il protège comme un véritable entraîneur digne de ce nom. Prenons Wally en exemple, c'est pas quelqu'un qui l'envoie au feu, c'est quelqu'un qui le protège.
Il est très paternel avec ça.
Voilà, totalement. Et c'est une équipe très jeune. On en revient, Paul, c'est vrai, Patrick.
Après, le problème que tu as, c'est que dans ton équipe, ce qui te manque, c'est une fixation en pointe.
Oui.
C'est-à-dire, tu avais Mopé qui faisait le boulot, parce que Mopé, c'est pas un grand joueur, mais c'est un mec qui se bat. Puis 7 ans titulaire en première ligue, c'est le mec, il a de la bouteille.
C'est
un combattant.
Oui.
Il se fait expulser, du coup, tu n'as plus de pointe. Mmh. Il a fait rentrer Rowe pour remplacer, qui a fait, mais c'est pas
son
poste. Et puis il est jeune, c'est un jeune joueur, il a 21 ans. Mmh. Et puis il joue en deuxième division anglaise, il manque d'expérience. Et donc, ça aurait pu s'améliorer quand il a remis à gauche, il a fait sortir Luis Enrique, il a fait rentrer Wally. Mmh. Mais Wally, il n'est pas en confiance.
Non,
je pense d'ailleurs qu'il n'a pas mis titulaire pour pas qu'il se fasse. Parce qu'il s'est fait secouer le premier match, où c'est vrai qu'il te mange la feuille de match. Il a 3-4 occasions très nettes.
On en revient.
Qui rate, voilà, complet. Du coup, il a perdu la confiance. Du coup, tu le mets pas au Vélodrome, parce que t'as peur que si ça se passe mal, il se prenne une bonne gare.
Voilà, tu à l'extérieur.
Tu le perds définitif, tu le fais jouer à l'extérieur, ou malheureusement, à Lyon, tu as une expulsée à la 4e minute 30. Donc, il se trouve tout seul, il sort à la mi-temps, et à Strasbourg, il n'a pas été bon. Et donc, il y a un problème de confiance. Mais ça t'a manqué énormément, point de fixation pour aller sur les centres. Parce que moi, une fois ou deux, on parlait avec les copains au stade, en tribune, et on disait, Greenwood, il mange le ballon. Oui, mais...
Il mange, mais il amène, il attaque.
Oui, mais à qui veux-tu qu'il le donne? À qui le donne?
Voilà.
Il n'y a personne.
Il est obligé d'essayer de faire la différence.
Voilà, il est obligé de créer une nouvelle brèche et tout.
Il n'y a pas une pointe, il n'y a pas un attaquant de pointe que tu vois.
Oui, un avant-centre qui fonce au premier poteau, au second poteau, voilà. Et il y a un manque d'incursion des milieux en attaque, pour faire un 2, un 3.
Un 2, 3, un dédoublement, ou attirer de la défense de l'autre côté pour qu'on puisse repartir sur...
J'ai vu Brest en Ligue des Champions à Salzbourg, quand ils ont une attaque, tu as 3-4 mecs dans la surface.
Oui, c'est fort à la mot, ça part de partout.
Ah oui, ça part de tous les côtés, ça court.
Mais c'est bien travaillé.
Et voilà, et ça veut dire que si à York il est pris, l'avant-centre, il y a 2-3 mecs qui foncent et tu peux donner les ballons. Là, le mec, il est seul. Il a deux types sur le dos. Tu ne vires pas le ballon.
Il s'agit d'une implication totale de chaque joueur qui se donne corps et âme et n'a pas peur des doublements de fonction, d'aller aider les partenaires. Seulement, après, il y a aussi les consignes du coach. Autrement dit, il y a des matchs qu'on dit, allez, on va le jouer à fond. On va essayer de le gagner. Mais j'ai l'impression qu'en championnat de France, beaucoup de ces équipes-là disent ce match-là, il ne faut surtout pas le perdre.
Oui,
et ça, c'est un problème. Donc, dis que, en ce qui nous concerne, c'est différent. Je trouve que le groupe est né, comme nous disions, mais que l'équipe n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore tout à fait prête à aller au bout de son talent.
Parce qu'on l'a vu sur les premiers matchs dont parlait Paul. Tu jouais beaucoup en contre. Ça me fait l'effet de Paris où il te dit je veux la possession et tu vois où c'est le meilleur, c'est en contre. C'est avec Dembélé et Barcola, avec des parts en pointe, avec des contres rapides, c'est là qu'ils sont le plus dangereux. Et toi, tu l'as eu, les mecs ont vu, ils ont pris des buts, ils ont pris des tannées. À Lyon, si Lyon n'attaque pas, que tu te fais avec tes deux latéraux sur des contres où le second but du lycée Garcia, c'est Lirola, l'arrière droit, qui sert l'arrière gauche dans la surface de réparation pour venir frapper le ballon.
Assez improbable comme situation.
Voilà, mais c'est parce que tu as dépassé ta fonction, tu es allé. Et là, aujourd'hui, les mecs, ils ont pigé, ils ferment.
Oui.
Et donc, et là, c'est vrai que moi, je pense que l'absence d'un vrai avant-centre devant, après l'expulsion de Mopé, nous a énormément pénalisé.
Et puis nos animations de couloir également, nous annulent la plupart des actions.
Les mecs, ils te bloquent, ils te bloquent axialement, donc tu es sur les côtés, mais tu as 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs, tu dribbles, Greenwood, il est repéré, les mecs, ils l'ont vu, ils ont compris.
Et après, l'adversaire, au début, d'autres l'adversaire, il arrive. Déjà, quand il arrive au stade Vélodrome, moi, j'ai un copain qui joue à Lille. Ben, il avait fait un match championnat de Ligue 1 contre l'OM. Il m'a dit, Paul, dans les vestiaires, on avait peur. Déjà, on avait pour nous, tu viens à l'OM, tu as déjà perdu, tu te changes.
C'est complètement ça.
Mais après, en montant sur le terrain, quand ils montent, au bout de 5 minutes, ils voient que les joueurs de l'OM, ils répondent pas. Ils disent, ah, ben si c'est comme ça, ben, ils n'ont rien à jouer. Mais du coup, les...
C'est ce qu'on a sur les deux matchs au lâche des points au Vélodrome. Contre Reims, tu les tues pas.
Mais ils viennent perdants.
Parce que tu dois être 3-0 à la mi-temps facile. Tu as des occasions en or, tu les rates.
Tu les mets pas.
Les mecs, ils reviennent en disant, mais les gars, on n'a rien à perdre. Ils attaquent, première action, ils mettent un but. Un cafouillage, ils mettent un but. Deuxième action, alors là, je ne digère pas.
Après, ils sont transcendés par les 70 000 spectateurs de l'OM qu'il y a. Là, ils disent, bon, ils sont pour nous maintenant.
Là,
on n'a rien à perdre. On est là.
Une tribune, on parlait avec les copains. Oui. On marque, c'est bon.
Oui.
Et trois minutes après, ils égalisent. Tu te dis, merde, ça va être dur.
Et c'est là que les
mecs qui se mettent tous derrière. Puis alors, ils s'arrachent comme des. Ils viennent chercher un point.
Ils viennent un point, ça le sort.
Avec les dents. Mais je veux dire, les mecs, ils ont raison. Ils sont derniers. Il y a un point au Vélodrome, c'est inespéré.
C'est le top de jouer au stade Vélodrome.
Et toi, tu n'y arrives pas. Quoi. Et c'est là qu'un tireur de 25 mètres, un bon joueur de tête sur les coups de pied arrêtés pourrait débloquer. Tu as des équipes qui débloquent grâce à ça, qui débloquent.
Il y a eu quelques frappes à mi-distance, mais je dirais très imprécises et sans volonté de faire la différence. On sent vraiment que quand une frappe est forcée et n'est pas vraiment.
Puis les frappes, moi je me rappelle, je parlais de Sauzet tout à l'heure, parce que ça me.
Une référence.
C'est une référence, mais il y en a eu des frappeurs. À une époque, c'était Lyon, il y avait Juninho, tu savais que le mec de 30 mètres, il pouvait allumer, il pouvait. Donc tu te méfies, donc tu joues pas pareil. Et toi, tu as toujours ce truc, tu y crois. Oui. Tu sais que le mec, il peut à tout moment. Et aujourd'hui, tu regardes l'équipe de l'OM, des gros frappeurs, je te dis, moi je vois Greenwood un peu et Højbjerg. Rabiot, quand il jouera, qui sera intégré, il a une frappe correcte. Voilà. Mais sinon, tu n'as pas de. Voilà. Après. C'est sûr que tu as un problème pour les latéraux. Quand tu n'as pas Merlin, tu es emmerdé.
Oui, ça, c'est un problème majeur.
C'est un vrai problème.
Tu n'arrives pas à aspirer, je dirais, tout en faisant sortir les défenses adverses. On a la possibilité de le faire, mais ça ne fonctionne pas. Quoi. On ne fait pas sortir les défenses adverses.
Il a tenté le coup en mettant Rongier contre Nice.
Contre Nice,
oui. Arrière droit, puisque Merlin était blessé à gauche. Mais tu ne peux pas avoir les deux latéraux qui sonnent sans arrêt devant. D'ailleurs, hier soir, j'écoutais les commentaires après le match PSG-Nice. Les mecs te disent, quand tu as Hakimi et Nuno Mendes, tu ne dois plus s'attaquer. Mais tu ne peux pas rester à deux centraux.
Non, pas possible.
Tu ne peux pas. Tu es obligé d'équilibrer ton équipe. Donc toi, tu fais ça, tu mets un des deux latéraux qui monte et l'autre qui reste plus défensif pour assurer, quoi. Et donc forcément, tu as un déséquilibre sur tes ailes. Voilà.
Parce qu'en plus, Rongier, il est obligé, excuse-moi de vous couper, déjà, ce n'est pas son poste.
Oui.
Là, il dépanne. C'est plutôt un 6. Il va plus nous apporter, c'est un porteur d'eau.
Oui.
Mais Rongier, quand il monte, il n'y a personne qui le couvre. Il va falloir qu'il quand il revient,
oui,
il
rentre sur le
travail. Mais à un moment donné, on n'a pas, au milieu de terrain, on n'a pas les joueurs qu'il faut pour pouvoir être complémentaires avec
surtout que Rongier, c'est la grosse qualité de Rongier, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui sent le jeu. Par contre, il revient d'une très grave blessure, aussi. Donc physiquement, il est un peu court, quoi. C'est sûr que Kondogbia Hoogberg, on est centraux. Tu peux pas les faire couper le côté, ils vont le faire, mais
une fois,
classique,
mais après...
voilà, c'est pas. Et c'est sûr que
mais j'attends de leur part un peu plus d'implication offensive. J'ai l'impression qu'ils sont un peu timorés et qu'ils pensent à ne pas se faire prendre en compte. Sur ce match-là, c'était assez criant.
Les mauvaises langues disaient qu'on aurait dit l'équipe de France au championnat d'Europe. Tu assures derrière, tu assures en défense, ton milieu il défend très bien. Mais offensivement, il manque d'incursion.
On peut croire que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Oui, entre Strasbourg et Angers, ça se suit, ça se ressemble, en espérant que tout cela va changer rapidement.
Voilà.
Avec la rentrée de Rabiot, là, en tant que titulaire, il est prêt physiquement à 120%.
Sera-t-il prêt face à Montpellier, je ne sais pas. Oui, peut-être contre Paris, et c'est pas sûr qu'il...
Il jouera contre Montpellier.
Il jouera une partie du match. C'est
je pense qu'il débute contre Montpellier pour... prendre du rythme, il sort à 20 minutes de la fin. Et contre Paris, à mon avis, il aura faim. Hein, contre Paris,
il
voudra...
Il va nous mettre son but contre Paris.
J'aimerais, même un seul, j'aimerais.
Un seul, on gagne un zéro but de Rabiot.
Surtout que cette année, sans être optimiste... C'est pas mon truc. Financièrement, il n'y a pas photo. Normalement, il n'y a pas photo. Mais je les trouve pas très bons. Moi, Arsenal, ils les ont bouffés. Ils accélèrent en seconde mi-temps, ils en mettent 4. Hein, voilà. Et ils les ont mangés. Ils ont marqué quand ils ont voulu. C'est-à-dire que la première grosse équipe qu'ils ont rencontrée, ils se sont fait défoncer. Donc, il y a quand même...
Même ce match face à Nice, ils ont eu d'énormes difficultés à passer les rideaux défensifs.
Il
y a quoi faire en championnat, je pense. Ça va être entre nous, Monaco, Lille...
Et Paul, alors peut-être, il est vrai que les équipes engagées en Ligue des Champions, en Europa League, elles vont être évidemment bien fatiguées sur les matchs championnats. Là, elles n'ont pas le droit de mettre des équipes bis, comme on dit entre guillemets, sur certains matchs européens, parce que tous les matchs sont importants. Et évidemment que certains paieront les frais en championnat.
Laisser des plumes là.
C'est une évidence.
En février et mars, là, ils vont laisser des plumes.
Il va falloir que ce soit un bénéfice pour nous.
Le club qui me fait peur, c'est Strasbourg. Ils vont bien finir.
Strasbourg,
c'est une très belle équipe.
Après,
une très belle équipe de football.
Ils peuvent avoir un problème, Strasbourg, c'est le manque d'expérience de leur entraîneur.
Ils sont très jeunes, les joueurs aussi.
Jeunes entraîneurs, les joueurs également, effectivement. Mais aussi, peut-être, tu as des mecs prêtés par Chelsea, tu peux avoir des gars qui pensent au départ. Et quand les mecs ils commencent à parler, à se caser.
C'est peut-être un peu prématuré, en tout cas.
Voilà, et donc, mais par contre, moi, ce que j'ai repéré, c'est que la Ligue des Champions a 8 matchs. Avec des matchs en janvier, février, plus les 16e à part les 8 premiers, ça va laisser des plumes.
Ça va impacter beaucoup d'équipes.
Moi, j'ai vu jouer Brest, j'étais super content, et super plaisir, parce que c'est une équipe sympa. Mais les mecs, ils ont mis une énergie dans le match. Mais c'est des chiens.
C'est tellement beau à voir.
Tu croyais une finale au coupe. Les mecs, ils ont joué leur vie. Quoi. Oui. Et ça, tu peux dire ce que tu veux, ça fatigue. Tu as un phénomène de jure. À part Paris et encore, je ne vois pas l'équipe qui est le banc. Même Monaco, ils ont un bon banc, et c'est vrai qu'en championnat, tu peux lâcher les points.
Et nous, on peut profiter.
Et nous, on peut en profiter parce qu'on n'a pas
très énergivore.
On n'a pas, voilà. Et c'est vrai que surtout que nous, on a quand même, on l'a vu avec tous les suspendus, les blessés. Tu as quand même une équipe qui tient la route avec tes remplaçants. Parce que Garcia, il a fait ses matchs. Kondogbia, il fait ses matchs. Lirola, il avait fait une rentrée à Lyon, il avait été bon. Il est bon. Tu as quelques bons remplaçants.
On a une équipe cohérente, le groupe en lui-même, mais faudra-t-il trouver les finalités de ce groupe, parce que c'est pas encore ça et il y a beaucoup de travail. Et De Zerbi, j'y fais totalement confiance. Étant donné que ses joueurs sont impliqués et sont avec lui, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Voilà. Le problème sera que les mecs, ils ont repéré comment tu... C'est vrai que le championnat de France, tous les mecs qui arrivent de l'extérieur, même Ancelotti l'avait dit, c'est un championnat très tactique.
Très, très tactique. C'est, en France, c'est l'un des championnats les plus durs.
C'est un des plus durs, très physique et très tactique. Et les mecs, ils te regardent. Et là, le mec d'Angers, il te dit, on avait vu, on a fermé l'axe, c'est on a bien, fait ci. C'est... Et quand tu as vu le match, tu te dis, oh, le mec, ils ont repéré comment tu joues, ils te ferment. Quoi. Et hier soir, Nice contre Paris, c'était ça. Ouais, mec, ils ont vu comme ils jouaient, ils ferment.
Voilà. Généralement,
tactique,
ça surprend.
Tactique et physique, parce que ça rentrait. Parce qu'Angers, c'est pas pour rien qu'il y avait un rouge. Hein, je veux dire, un mec, il rentrait. Hein. Après... C'est pas une équipe méchante, hein, je veux dire, mais les mecs se sont battus. Oh, quoi, oui. Voilà.
L'engagement physique et je dirais l'aspect tactique, et ça surprend beaucoup de joueurs étrangers qui découvrent la Ligue 1, qui ne sont pas spécialement habitués à ce climat-là. Ouais.
En plus, c'est dans la continuité de chaque équipe, parce que nous, sur les quatre, tu prends le classement, les quatre ou les trois dernières équipes. C'est eux qui ont juste un petit peu de lacunes pour pouvoir suivre les autres. Mais sinon, chaque match, tous les matchs
sont durs.
C'est costaud. Tandis qu'en Espagne ou en Italie, à part les 5-10 premières équipes, après, ils sont là.
Tu as quand même une sacrée différence.
Voilà, une grosse différence. Il y a deux championnats dans les autres championnats. Ici, non.
Totalement d'accord. Il est vrai.
Les matchs sont très disputés. Moi, je regarde beaucoup la première ligue. Hein. Au moins, je rentabilise mon abonnement à Canal. mais je paye.
C'est un peu normal.
Mais je paye aussi pour les séries et pour les films. Hein. Voilà. C'est l'avantage. Mais c'est vrai que la première ligue, c'est très disputé. Et le championnat de France, il est physiquement, il est rude. Ça cavale à 97 minutes. Et même Angers, pourtant, moi, je l'ai pensé faible. Je pense qu'ils seront dans les 3-4 équipes dans la charrette pour la descente. Parce qu'ils n'ont pas pu recruter, ils n'ont pas d'argent. Mais au courage, bon, tu viens au Vélodrome, tu vois que ça se goupille bien pour toi, tu égalises de suite. C'est le cœur qui remplace. Voilà, exactement. Et le truc, c'est que ben ils sont chiants à jouer. S'ils arrivent à tenir les 34 journées comme ça, ils ont, comme le Havre l'année dernière, ils peuvent se sauver. Au courage, à l'engagement, c'est les mecs durs à jouer.
Mais
chiants,
c'est évident qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent paraître moribondes, mais bon, on peut être surpris du jour au lendemain. Faut-il les rencontrer? Et j'ai peur de ce match face à Montpellier qui arrive. Là, on les voit complètement cuits et complètement finis. Alors que le championnat est loin de l'être. Mais bon, j'ai peur qu'il y ait un sursaut d'orgueil, le fait de jouer contre nous, et en même temps de trouver des ressources que l'on pense qui sont insoupçonnées. Quoi.
Parce que c'est un derby. Hein.
Oui, ça reste ça. Donc, cette envie qui peut dépasser le talent en lui-même. Quoi.
J'avais un copain au stade vendredi soir qui me disait il a vu Nice-Lazio.
Oui.
Enfin, il a regardé pour Guendouzi et Gigot. Gigot était sur le banc, il est parti. Mais il m'a dit les Lazio, ils ont explosé à Nice. S'ils avaient joué comme ça contre Paris, ils se font défoncer. Sauf que c'est PSG, s'ils joueront contre nous, ça sera pareil. Les mecs, ils sont surmotivés. Et Montpellier, contre nous, ils sont toujours. Voilà, ils sont toujours le couteau entre les dents. Savanier, il se réveille.
La motivation, l'implication, et quand on greffe à cela la justesse technique, ça peut faire mal.
Oui, parce que tu vas te faire exploser à Nantes ou au Havre, mais quand tu joues l'OM ou Paris, c'est le match de l'année. Quoi.
C'est ça,
enfin, on verra. Après, c'est la rançon de la gloire. Hein. On ne va pas rappeler qu'on est le seul vainqueur de la Ligue des Champions. Ça serait mesquin. Voilà, ça serait minable. Mais le fait est qu'on l'est. Quoi.
C'est bien de le dire, ça fait du bien.
Ça fait du bien
au cerveau.
Oui, surtout que, à mon avis, sur ce que j'ai vu, c'est Pastani qui la gagne. Mais bon, voilà.
Écoute.
Les autres. Je ne veux pas être mesquin. Mais je...
Nul ne l'est. Aucune mesquinerie.
Louis Enrique, il a gagné au Barça. Je ne suis pas sûr qu'il le gagne à Paris. Mais bon, nous verrons bien.
Et j'ai l'impression, pour faire une petite parenthèse, que le vestiaire, pour parler de cette équipe, justement, n'est pas aux anges et qu'il y a quelques dissensions au sein des joueurs et que ce vestiaire, c'est pas le calme et la plénitude absolue. Beaucoup de griefs envers leur entraîneur, quelques discussions un peu hostiles. Bon, quelques joueurs mis à l'écart. Après, chacun ses problèmes. Après, je leur souhaite pas de mal, mais pas de bien non plus.
Ils payent peut-être le fait que plein des années, les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient.
Oui, tandis que là.
Et alors, bien sûr, tu n'as plus d'Mbappé, tu n'as plus de Messi, tu n'as plus de Neymar. Mais les mecs, ils ont joué avec, ils ont vu. Ils disent, oh, moi qui je suis, quoi. J'arrive en retard, on me met dehors, où on est, quoi.
C'est un professeur d'école, là.
Oui, surtout que c'est vrai. Alors,
je suis
persuadé que Dembélé à Arsenal, il perdait quand même, hein, parce que. De toute façon, il a trop de maladresse dans les derniers centres et dans les.
Il a toutes les qualités frappes. Du monde, un joueur merveilleux, mais il n'a pas la finition.
Voilà, il n'a pas la finition. Il se faisait quand même bouffer à Arsenal. Mais c'est ton meilleur élément, tu le sors parce qu'il est arrivé en retard. C'est pas très. Ça fait un peu, oui, ça fait adjudant-chef de carrière. Voilà.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Patrick, mais est-ce que ça va faire cruellement défaut au Paris Saint-Germain l'absence de stars ? Où sont passés les Messi, les Mbappé et autres joueurs et consorts. Ces mecs-là, même un mec comme Messi, je ne le voyais pas de match, mais il savait qu'il allait faire une passe, qu'il allait marquer un but, c'est venu d'ailleurs. Quoi. Les stars qu'ils ont eues ces derniers temps, qu'ils n'ont plus à présent. Le vestiaire sera plus facile à gérer, je ne sais pas.
On a juste un truc là-dessus. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec les copains en refaisant le match, quoi. Moi, je me rappelle le dernier match où il y avait la MSN, Messi, Mbappé, Neymar, au Vélodrome, on prend 3-0. Mmh. Les gens, ils ont vu les deux buts d'Mbappé. Moi, j'ai vu les deux passes de Messi. La louche, en deuxième mi-temps, c'est devant moi, je suis virage sud. Le mec, c'est un monstre.
C'est une tour de magie.
Il n'y a que lui au monde qui sait faire ça.
C'est la base.
Et malgré tout, Messi... D'abord, déjà, les mecs, quand tu as ça en face, tu laisses deux mecs dessus. Ouais. C'est ce qui nous arrive avec Greenwood.
Oui.
Greenwood, quand tu regardes les matchs, il a deux mecs sur lui.
Là, tu m'éclaires,
son arrière, qui a fait un très bon match, et un milieu qui est systématiquement.
Ils sont deux. Dès qu'il sort sur un crochet, il y en a un autre
dessus. Et Dembélé a la même chose à Paris. Ouais. Et tu as quand même trois mecs à marquer, donc tu ne peux pas laisser six mecs dessus. Mbappé, il avait la vitesse. Messi, il avait la capacité technique. Et Neymar, c'est un dribbleur fou, capable de gestes de génie. C'est pour ça que Deschamps, à l'Euro, il a maintenu Mbappé alors qu'il était nul et qu'il a fait que des matchs de merde. Parce que tu te dis, un mec comme ça, sur une seule action, il peut te changer un match. Voilà. Et c'est vrai que des joueurs comme ça, à Paris, il n'y en a plus.
Non.
Tu as Dembélé qui est là. Tu penses que la vedette, c'est Dembélé. C'est un mec, il a 27 ans, Dembélé. Je veux dire, il n'a jamais marqué beaucoup, il n'a jamais eu de stats.
Barcola,
il est intéressant, mais c'est pareil. Il faut qu'il confirme.
Mais c'est un joueur d'avenir, véritablement.
Mais là,
Tu as un problème là-dessus. C'est-à-dire que les super joueurs, à Manchester, Rodri, De Bruyne, Haaland, c'est les mecs que sur un coup de génie, te changent un match. C'était la force d'Ibrahimovic, Zlatan, un ballon de merde, il te le mettait dedans.
Il y avait du monde autour de lui aussi.
Il y avait du monde autour de lui.
C'est exactement ça.
Mais tu as quand même le joueur qui fait la bascule. Je regardais hier soir, il montrait le Real qui a gagné contre Villarreal. Que Mbappé n'a pas été bon. Le but de Vinicius, il prend un ballon, contrôle 25 mètres, un missile en lucarne.
Le joueur hors norme.
Alors qu'il n'a pas été bon. Mais le mec, sur une action, il te gagne le match.
C'est ce que nous allons attendre de Greenwood.
Voilà, mais Greenwood, c'est...
On a eu des prémices, nous l'avons vu, et il faut que ça se poursuive.
C'est plus un créateur. Moi, il m'a rappelé, on en parlait entre anciens.
Il
m'a rappelé Magnusson. Le mec qui part, qui dribble, qui fonce, qui va... Et, sauf que Magnusson, c'était surtout un passeur. Beaucoup plus qu'un buteur, il marquait pas tellement. Après, il y avait Skoblar qui reprenait les ballons, et là, ça faisait mal. Mais je veux dire, Greenwood, c'est un peu ce genre-là. Quoi.
Maintenant, si tu mobilises autant de personnes pour défendre autour de toi, ça peut créer des espaces. Mais faut-il en profiter et en bénéficier ? Seulement, s'il n'y a pas cette intelligence de jeu qui est autour de ce joueur-là, à ce moment-là, eh bien, on ne pourra pas trouver l'ouverture, mais ça va se travailler, ça va se résoudre.
Voilà, j'espère bien.
Et est-ce qu'on a le droit là, de prendre un attaquant là, bientôt là
un janvier.
Oui, là, au mercato d'hiver.
Je ne suis pas sûr qu'ils prennent, parce que tu as mis quand même beaucoup d'argent sur Wai.
livrer que...
Tu vas essayer de le relancer, ne serait-ce que pour le van, hein, pour arriver à t'en débarrasser, quoi. Parce qu'à un moment donné, après, le moindre avant-centre maintenant, 25 millions, c'est une pièce de monnaie. Hein.
Je suis assez d'accord avec toi. Ça,
ouais. Quand tu vois les prix, 40 millions, 50 vrai, millions, tu as donc, voilà... tu as un Mopé si on... qui est très bon remplaçant.
Le Lopé que tu nous as décrit, là, moi, la façon que tu nous l'as décrit, je le vois déjà là, chez nous. Mais s'ils arrivent à prendre un attaquant, l'attaquant que toi, l'attaquant de pointe là, qui va peser sur la défense, avec Rabiot et Greenwood, les joueurs d'un complément qu'il y a sur le terrain,
Hubert,
on aura une belle équipe.
Oui.
Le gardien, il est parfait, on a tout ce qu'il
faut. Mais c'est-à-dire, c'est...
Je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Je vais revenir à ça pour voir prendre un joueur de plus au niveau offensif comme avant-centre, puisque tu risques de justement couper les ailes aux joueurs présents. Peut-être moins Mopé plus Wai qui a besoin de retrouver un peu de confiance, parce que je pense pas que tu perdes ton football du jour au lendemain comme cela, même s'il a eu quelques difficultés l'année dernière avec Lens. Malgré ce, c'est un joueur de qualité, il faut juste optimiser son jeu et je pense que ça va le faire. Un autre joueur serait-il bienvenu? Oui. Va-t-on trouver une perle rare au mercato d'hiver? Ça, j'en doute aussi. Donc, c'est assez compliqué au niveau financier également.
Parce que si tu fais évidemment venir un attaquant au mercato d'hiver, ça veut dire qu'il y a Wai qui s'en va. Ça peut être un prêt, une vente, un prêt. Ne serait-ce que pour le relancer, un prêt pour le relancer. Tu le relances et peut-être tu pourras le vendre.
Je le respecte.
Voilà.
Mais s'il doit partir, il peut.
Le problème, Franck disait, il a été un échec à Lens. À Montpellier, moi, je le trouvais. Ce que je trouvais bien à Montpellier, c'est que le mec, il frappait, il réfléchissait.
Très instinctif.
Il était l'instinct. Et là, à Lens, il a en partie échoué, c'était assez médiocre. Par contre, moi, je l'avais vu contre Arsenal en Ligue des Champions, il avait fait un très bon match. Donc le mec, il a du ballon.
Il a du ballon, mais c'est dans la tête, c'est le coco.
Voilà, c'est dans la tête. Et là, ça t'a fait sortir sous les sifflets contre Reims.
Mais même quand j'ai vu les sifflets, ils l'ont tué.
Ah ben nous, on était en virage, on disait c'est les Ghanais qui sifflent et les Jambouins. C'est pas les virages, parce que les virages, tu sais que. Mais c'est les touristes de l'été qui ont sifflé.
Mais prendre notre attaquant, lui mettre dans les pattes, dans l'effectif, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Je pense que de le relancer, il le fera de lui-même et on va le mettre dans les bons.
Le problème que tu as, c'est que c'est un avant-centre. Tu peux pas le mettre sur. Parce que Rowe, il a fait remplacer un avant-centre. Il peut jouer en pointe, mais il est mieux sur l'aile.
Sur le côté, oui.
Greenwood, il peut jouer en 10, peut jouer ailier, peut jouer en 10. Mais l'autre, c'est un avant-centre.
C'est un
point.
Ou
alors, il faudrait deux pointes. Mais ça veut dire que tu joues plus pareil.
Mais il va falloir attendre, Franck, si le prochain match, il ne marche pas.
Mais je pense qu'ils vont regarder ça, ils vont le faire.
Après, la pression qu'il y a sur
Après, Paul, ça reste du show business, le football, il ne faut pas se leurrer. On en a conscience que, évidemment, qu'il y a des appels, pas que de ballons, des appels d'offres, il y a du financier qui, au milieu, il a coûté un certain prix.
Bien sûr. Et là, je vois un Horst Rubesch, la façon dont tu m'as parlé, là, Franck, tu m'as décrit là, ton attaquant. Un Rubesch, là, il arrive, corner, il se. Bam, dedans.
Un intensif qui plante.
Un Giroud, un mec comme ça, voilà. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, je regardais parce que...
Ça fait vibrer tout. D'ailleurs, on passe une bonne
semaine. J'en vis pas.
Je lisais dans l'équipe, ils ont fait un article il y a 2-3 jours sur... à Paris, il te manque un avant-centre. Voilà. Donc, ils parlaient de Gyökeres, le Suédois du Sporting Portugal. Ils parlaient de Dobvik, mais ils viennent de signer à la Roma, ils ne vont pas le vendre. Parler de joueurs comme ça. D'Osimhen, qui est en Turquie. Mais ces mecs-là, il faut chercher 80-100 millions mini, puis des salaires première ligue.
Alors que là, on a déjà lâché.
Là, si tu gardes Hawaii, tu ne peux pas. Et de toute façon, il y en a certaines, tu ne pourras pas. Donc, tu vas être dans l'obligation de relancer Hawaii à l'extérieur pour éviter qu'il y ait des sifflets, qu'il morfle. Et tu vas espérer que... Après, il peut être bon si le jeu de l'équipe est bon.
À commencer par son ancien club qu'on va jouer sur la prochaine journée.
Oui, Montpellier, voilà. Mais bon, voilà. Mais enfin, ça va être.
Il nous fait un hat-trick là contre Montpellier.
Après,
de tout cœur.
Vendredi soir, tu as plusieurs joueurs qui n'ont pas été au niveau. Tu en as 5 ou 6 qui ont été nettement en dessous. Tu peux espérer
ça,
que.
Pas parler de ce match.
Alors,
parce que
le problème, c'est que Højbjerg, il va avec l'équipe du Danemark, il est capitaine.
Voilà.
Donc, il va jouer.
Il y a une trêve internationale où beaucoup de nos joueurs vont jouer avec leurs équipes nationales respectives.
Après, tu peux espérer que Carboni se refasse la cerise en Amérique du Sud, en Argentine. Qui reviennent parce que là, vendredi, il n'a pas été bon.
C'est-à-dire qu'on n'a pas pu le.
Il est carboné.
Alors, déjà, je m'interrogeais sur une chose déjà, que l'Inter de Milan nous le vende.
Nous le prête,
oui. Autant pour moi. Mais quelque part, ils en sont débarrassés. Un joueur de talent aussi jeune que cela.
Alors, attention, je pense qu'il ne s'en débarrasse pas. Si j'ai bien compris.
Quelle était l'option ?
Il était prêté à Monza. D'accord. En Italie, il a flambé, il a fait dans une équipe de bas de tableau, il a fait une super saison. Oui. Après, il faut voir au plus haut niveau. Et l'Inter, ils te l'ont prêté un million d'euros.
Le prêt est-il optionnel ?
Avec une option d'achat à 36 millions. D'accord. Mais ils ont fait marquer une option de rachat à 40.
C'est-à-dire, qui reste négociable.
Oui, mais à 40. Voilà. Oui, ça veut dire que tu leur payes 36, tu en rends 40 et tu le rends. Quoi. Voilà. Donc tu gagnes 4 millions. Ouais. Ça veut dire que quand même, ils n'ont pas voulu s'en débarrasser. Mais c'est un jeune de 19 ans.
C'est pour
donc,
faire les plumes.
Est-ce qu'il fait partie de ces joueurs
en devenir
brillants, super ballon, tout le monde te parle du Cupid,
futur crack,
et puis qu'ils ne sortent jamais. Voilà.
Oui,
ça qui bourgeonne pas.
Partie de ces joueurs sélectionnés par leur équipe nationale et qui ne joueront jamais. Je ne crois pas. Je pense qu'il aura ses chances.
On sait qu'au Brésil et en Argentine, des jeunes de 18-19 ans sont internationaux parce que. Ça va mieux.
Ça,
et
voilà,
mais après, ils ont 3-4 sélections.
Voilà, on revient au show business.
Voilà, lui, il était sur le banc. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est un bon joueur. J'ai vu juste quelques images sur Internet.
Je ne doute pas.
Quand il était à Monza. C'est un Argentin. Hein. Techniquement, c'est un monstre. Après, l'intelligence de jeu, connaître tes équipiers, faire la passe qui tue. À Monza, il le faisait.
Et là, il a été contraint de jouer à contre-emploi.
Parce qu'à Monza, il avait des attaquants qui n'étaient pas des fourreaux de guerre. Ouais. Hein. Donc, il faisait 10 belles passes, il y avait un but. Quoi. Voilà.
J'ai une idée, là, ce qui me taraude.
Ouais.
Monsieur Jean-Pierre Papin a pris la réserve.
Oui, lui faire travailler.
La réserve. Pourquoi il ne le prend pas pendant un mois là, avec la réserve.
Mais il bosse
non,
des fois.
Non, mais il bosse avec lui. Là.
Il bosse des fois avec...
Il
fait des trucs
il
avec...
La personne qu'il faut pour pouvoir...
Avec, comme il s'appelle, avec deux herbies.
Oui.
Je crois qu'un jour par semaine...
Ah, il a une staff extraordinaire.
Voilà.
On n'a jamais eu autant d'encadrement au niveau professionnel à l'OM, personnes qui s'occupent de différents profils, d'attaquants, défenseurs, milieux, gardiens.
Après, Jean-Pierre, il vient faire travailler les avancées.
Oui, ça, voilà. j'avais appris.
Numéro 10, c'est moins son truc, c'est plus le buteur. Mais le mec, il travaille. Des fois, il y a une déclic. Qui se fait, qui se fait pas.
Repris, là, de...
et donc c'est compliqué parce qu'il est arrivé blessé, il n'a pas fait la préparation,
il
manque de rythme, il n'a pas de repères, et puis il est jeune, il a 19 ans. Quoi. Mais si le mec il éclate, si Greenwood il revient, il retrouve son niveau, si.
Il va le retrouver.
Normalement,
ils devront.
Il
retrouve leur niveau.
Il ne faut pas douter.
Greenwood, c'est le type de joueur qui a des hauts, des bas toute la saison.
Le talentueux revient toujours au galop.
Voilà. Mais voilà, donc nous verrons bien et on espère que.
Je t'adore, Franck.
Parce que là, on est quand même à 4 points. Oui, à 4 points.
4 points.
4 ou 5 points.
Alors,
5 points. 5 points.
Il ne faut pas oublier que nous sommes talonnés et que Reims nous a rejoints à la 4e place, enfin à 3e. Et voilà, Lille est à 1 point. Donc, tout se resserre. Évidemment que nous ne sommes que 8e journée à venir 7e. À Montpellier. C'est ce match-là dont nous allons parler, mais ça sera donc pas la semaine prochaine, mais après la trêve internationale qui va arriver là dans quelques jours. Et donc il faudra que tout le monde soit en forme et prêt à repartir sur de bons auspices et de réaliser des matchs performants pour ne pas dire les gagner. Voilà, les deux matchs à venir seront évidemment très très importants. Tous les matchs le sont.
Après Montpellier, ils ont 4 défenseurs, 4 des 8 défenseurs blessés.
Oui. Oui.
Est-ce qu'ils en récupèrent après la trêve, Dans quel état ils seront? Ouais. C'est un mec qui revient, il n'a pas joué depuis 3 mois, il est un peu... Mmh, voilà.
Il est juste.
Est-ce que, parce que j'ai vu juste les buts qu'ils ont pris, c'était à Saint-Étienne, c'était où qu'ils
non,
ont
non,
pris 4
face à Reims.
À Reims, ils ont pris 4.
Justement, qui nous talonne, voilà. Qui est à égalité de points avec nous.
Tu regardes les 4 buts qu'ils prennent, tu dis, c'est comment ça qu'ils défendent? Ils vont en Ligue 2, ouais, les mecs, ouais. Tout droit. Hein. Parce que vraiment, c'est faiblard.
Ça leur tend les bras, mais bon.
Est-ce que contre nous, ils vont pas...
Ils vont se réveiller. Voilà. Ouais. Mais ça m'étonne, parce qu'ils ont un football, là. C'est pas le Montpellier qu'on connaît, hein, d'habitude.
À force de vendre tes meilleurs joueurs, voilà, et de pas acheter...
C'est le problème majeur des clubs de Ligue 1, voilà. Vendre tes meilleurs joueurs et Dommage. Tu peux pas les remplacer qualitativement.
Enfin, et là, ils ont des blessés, et ils ont le gardien titulaire, ils ont 4 défenseurs, en fait, c'est pas des grands noms,
non,
hein.
c'est pas
des super joueurs, mais j'ai vu qu'en défense centrale, ils mettaient un jeune, je crois que c'est le fils, Josic. C'est le fils d'un ancien pro de Montpellier, d'ailleurs.
Ah oui, oui. Oui.
19 ans, son deuxième match en pro. Oh. Un mec, il a explosé. Ah non, il s'est fait bouffer.
Voilà, faire confiance aux personnes présentes et à la jeunesse.
Là, un mec comme ça, tu lui mets un avant-centre un peu rocken devant, il se fait manger. Ouais. Et mais est-ce que contre nous, est-ce qu'ils récupéreront? J'en sais rien. En tout cas, on disait lundi dernier, contre Angers, il faut gagner. Et là, on dit, contre Montpellier, il faut absolument... Parce qu'après, tu reçois Paris. oui, mais c'est un classico, les voilà, mecs, oui. Ils ne sont pas à Nice, là ils vont
mais
jouer.
Permettez-moi une parenthèse avant de... va falloir clôturer cette émission dans pas longtemps, oui. Dans peu de temps, je dirais. Oui, évidemment, sous les meilleurs auspices du monde, essayons d'optimiser. Et je ne dis pas de gagner tous les matchs, parce que ça sera presque impossible, mais en tout cas... de gagner la plupart des matchs, pour ne pas dire tous, oui, une fois de plus.
Ils vont t'écouter, ils vont gagner tous leurs matchs. Là,
de tout cœur. Soyons positifs et optimisons ce que nous pouvons.
Après, dans une saison, ça va, ça vient.
Bah, évidemment.
Parce que vendredi contre Angers, on a eu plein de ballons dans le paquet d'actions, on avait le ballon tout le temps. Des fois, un centre contré, un truc contré, le mec qui reprend, ça fait des buts de merde, mais ça fait des buts.
Le football est magique.
C'est ça qui rend magique le football.
Le football, et combien de fois, moi j'ai vu des titres, même avec tapis à l'époque, où tu gagnais à l'arrache, un coup de tête sur un corner, une carte.
Il y a la frappe de Sosé, rappelez-vous. La frappe de Sosé.
La frappe était magnifique.
On était derrière, rappelle-toi, Franck, on était derrière.
Pas besoin de m'en rappeler, je l'ai encore à moi, cette frappe.
À moi, elle était devant moi. Elle était en face de moi.
Ah oui, et nous, elle était juste derrière. Voilà. Ah, oui.
Et nous, elle était au nord. Je l'ai vu. Et en plus, j'avais un copain qui était à côté qui disait « Frappe, frappe, frappe !»
Et l'autre, il frappe et boum.
Voilà, donc, oui, on a ce genre de choses. Voilà, enfin.
Donc, laissons les souvenirs de côté. Nous allons créer de nouveaux souvenirs. Pas nous, mais on va les partager avec les émotions que l'on va connaître.
J'espère, je connaîtrai, je veux être centenaire.
Un petit peu parler de nos équipes régionales, on va commencer pour parler un petit peu de Martigues. Bon, je sais qu'il y a des soucis, je dirais, au niveau de stade pour recevoir. Ils sont toujours au stade Vélodrome. On leur a proposé peut-être de recevoir. C'est la Ligue qui, évidemment, fait l'appui et le beau temps, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et donc, évidemment, que Chambly ou bien jouer à Gognon, c'est une possibilité pour Martigues. Recevoir là-bas, ça risque d'être problématique. Donc, c'est vrai que les 600 000 euros de location du Vélodrome pour venir jouer avec Martigues, vu que l'affluence n'est pas extraordinaire, ils n'arrivent pas à rentabiliser cela. Ça va être assez compliqué. En tout cas, bon, ben, il se trouve qu'ils ont joué à Ajaccio, hein, malgré... le match était prévu vendredi, le problème c'est qu'il a été reporté au lendemain. Oui. Alors les joueurs, de Martigues ont atterri à Ajaccio le jeudi, la veille. Le problème étant, c'est que les arbitres n'ont pas pu arriver à part des problèmes de grève sur l'île de Beauté, en l'occurrence. Et le match a donc été reporté au lendemain. Bon, bah, évidemment, qui s'est soldé
partout.
Et... avec un match assez particulier, puisque les Ajacciens ont joué à 9 la partie du match. Et voilà, bon, ben. Bah, dégageons les points positifs sur ce match-là.
Oui, voilà. Ils ont pris un point. Voilà, oui, à l'extérieur, ça, comme la seule victoire qu'ils ont, c'est à l'extérieur. Ouais. Par contre, tu as une expulsion à la 40 et quelques,
oui.
Et la deuxième à la 73 ou un truc comme ça. Oui. Tu finis à 11 contre 9, tu n'es pas arrivé à marquer.
Oui, oui. Ça reste problématique.
Et alors que tu aurais mis un but même de raccro moche sur un ballon, un cafouillis dans la surface... C'est un fait de points de plus.
De plus, c'est super, respirer un peu.
Et c'est voilà, et là, c'est quand même mentalement, c'est un peu compliqué. Et puis ce problème de stade est infernal.
À la limite,
il vaut mieux que vous ayez à Chambly ou à Guignol, c'est beaucoup moins cher.
Et, oui.
Et tu auras les mecs du coin qui ont plus, qui voient plus de matchs de Ligue 2 depuis des années.
Complètement.
Tu auras 500, 800 000 personnes, parce que moi j'ai vu des images. Sur BFM Marseille, sur une émission, ils parlent de l'OM.
Oui.
Ils ont montré 800 spectateurs au Vélodrome. Tu as l'impression qu'il y a huit clos. Tu te crois revenu au Covid. Voilà, c'est
très confidentiel.
C'est drôle même de Martigues, parce que nous, on a connu Martigues quand il était en D2, excuse-moi de vous couper, ou après en D1.
Il y a en D1, tout à fait.
Il y avait Patrick Blondeau, Ali Benarbia. Et pareil, j'ai connu Martigues en D2, quand il y avait Tolo, Bandomel, Daffreville.
Éric Durand, super gardien.
C'était la deuxième équipe de la région. Même si on n'allait pas au stade Turquin, mais il y en avait toujours un passement au cœur pour le
stade de Martigues. À l'époque, financièrement, tu citais des noms de joueurs de... Éric Durand, il est resté, je ne sais pas combien d'années, gardien de but à Martigues. Mais comme ça, aujourd'hui, il ne restera plus. Parce que c'est le plus faible budget de Ligue 2.
C'est terrible.
Et le pognon, c'est essentiel.
L'argent est le moteur de tout.
Voilà,
même là, je vous donne un exemple.
Ouais.
Ben notre ami Alain, notre ami d'enfance.
Oui.
Là, il entraîne, il me dit, Paul, j'ai pris les U17. Et comme il a un des trois fils qui ça va, il maîtrise, il aime le football, il maîtrise, il y a quelque chose.
Dit, on peut citer son nom, Alain Gomis, qui travaille.
L'année prochaine, t'amènes le petit. Elle m'a dit, ah, Paul, non, c'est plus le Martigues qu'on a connu. Alors qu'on était prêt à aller jusqu'à Martigues en courant pour aller jouer comme des gamins.
Ah oui, parce que les mecs, ils avaient leur chance.
Ils avaient leur chance, mais il y avait quelque chose.
Il y avait une structure.
Paul, tu pourrais nous présenter finalement. Bon, je sais que tu es éducateur depuis très très longtemps, que tu t'occupes depuis. On se connaît. On ne va pas le cacher à nos auditeurs. Depuis fort longtemps, tu t'es toujours occupé
d'être présent pour les jeunes, d'être présent pour
tu as toujours été présent auprès des tiens, des leurs, de tous et de toutes, et prêt à donner tous les conseils et à aider au niveau technique, au niveau du football, car tu n'en es pas démuni. Bien au contraire, je t'ai trouvé toujours très doué au niveau footballistique, et en même temps, tu avais cette communication que tu arrivais à justement véhiculer auprès de la jeunesse. Et je sais que tu continues, on me l'a dit, ce travail-là auprès de jeunes, auprès d'un club de la Blancarde, me semble-t-il. Tu peux nous en parler ?
Mais là, tu as tout dit, j'arrive pas.
Non, mais.
Merci beaucoup, Franck. Ça
ta timidité est un talent supplémentaire.
Ça me touche, merci beaucoup, merci.
Mais
on est nombreux, hein.
Vous comprenez qu'on invite Paul, parce que dans 10 ans, on l'invitera peut-être à parler d'un jeune dont il s'est occupé, qui est en équipe de France.
Ouais. Voilà. Et c'est par le plus grand des hasards que je trouve fabuleux que je le retrouve aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il aurait été présent.
Oui.
Non, même moi, ça me fait tout drôle, et je suis content, je suis le plus heureux du monde.
C'est partagé.
Nous, comme on a grandi dans le même quartier, on a les mêmes vies d'enfance, les mêmes amis. Voilà, ben là, en ce moment, ce que je fais, Franck et Patrick, et chers auditeurs, les enfants jouent dans leur club respectif, et moi, les parents, quand ils n'ont pas entraînement, le lundi ou le dimanche matin, ou le vendredi soir, les parents m'amènent leurs fils, leurs enfants, même leurs filles, et moi, je les bonifie. Je travaille avec eux. Un exemple, s'ils ont besoin de progresser au niveau de leur pied gauche, Mais je suis là, je les amène au bout de trois séances.
Pour tu moi, as l'œil pour déterminer que...
Je les bonifie, soit dans la technique, soit dans le mental, soit de les faire voilà. Le surpassement de soi. Et du coup, là, en ce moment, je suis en contact avec des enfants qui jouent à la Busserine, qui jouent à Herbel, qui jouent au cheminot.
Il y a très longtemps que tu sillonnes tout Marseille.
Tout Marseille, et je suis là.
Et tous les stades de Marseille.
Et voilà, je suis là, je fais ce travail-là. Et en plus, c'est bonifiant quand j'entends que le petit allait faire son essai à Pôle Espoir. Il est passé en deuxième tour. Il revient me voir. Tantôt, je suis pour le troisième tour. Tantôt, je suis pour le quatrième tour. Super, ben continue comme ça.
Et tu ignores ceux qui ne te l'ont pas dit, mais il y en a beaucoup depuis des années qui ont pu intégrer des pôles espoir qui n'existaient pas encore, qui avaient un autre nom, qui ont pu intégrer des équipes,
qui sont devenues
de très bon niveau.
Même là.
Ça a su leur apporter au niveau psychologique et parfaire leur technique et leur approche.
Leur approche du jeu et de l'avenir, du futur aussi. C'est là un exemple, il y a 2 ans, j'avais pris les 8-14 premiers cantons. Mais ils avaient 14 ans. Pour moi, j'étais là en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur de foot, mais aussi de leur préparer pour leur brevet de collège. Oui. Il y a certains, je me rappelle, il y en a 2, ils arrivaient toujours en retard. Ils arrivaient à l'heure du match, ils disaient un tel. J'y vais là, l'année prochaine, tu vas passer ton brevet de collège. Tu vas rester dans le lit, tu vas dire j'y vais pas. Et tu es arrivé juste à l'heure où il a fermé, tu arrives le proviseur a fermé le portail. Comment tu fais ? Alors là, s'il te plaît, là, je vais te voir 30 minutes avant. D'accord, parce que là, tu prépares ton brevet de collège. D'accord, mais je pars aussi là-dedans.
C'est comme un entraînement pour préparer un match.
Un match, la même l'avenir, leur futur et voilà,
leur vie.
Voilà. Il y a tout ça.
Pour bien préciser pour les auditeurs, Paul, il travaille sur des petits groupes. Voilà, c'est-à-dire qu'il entraîne des équipes, il a les compétences et les qualités, mais des fois, il travaille sur des petits groupes de jeunes
qui jouent dans une
équipe, 3-4 gamins, et c'est une préparation individualisée qui est une aide importante parce que il n'y a pas que le foot, il y a la tête aussi, bien sûr, c'est important, c'est essentiel. Et donc, il essaie de faire progresser des gamins qu'il connaît, il connaît les parents, la communauté, des trucs comme ça.
Dans leur vie, tout simplement.
Même il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, il y a une époque, je suis allé jouer à La Réunion, parce que j'avais Franck, à mes 19 ans, j'arrivais pas à avoir de... J'étais à Martigues avec Patrick Blondeau, Benarbia. Il y avait Franck Bonnera, et lui, c'était un génie. Personne à Marseille, on n'a jamais parlé de ce monsieur. Ouais. Là, comme j'ai la chance d'être avec vous, je ne sais pas où il est, Franck Bonnera, s'il est toujours à Marseille. Franck, tu nous as fait rêver. On était de la même promotion, mais c'était un phénomène, Patrick.
Je m'en souviens. Je n'ai plus de nouvelles de Franck Bonnera.
Je crois qu'il a joué à Monaco, d'ailleurs.
Oui.
Après, il était à Martigues. L'OM Martigues. Mais là où je voulais en revenir, même il y a 20 ans, quand je faisais la Réunion, les frères Robert, Bertrand Robert
et Laurent Robert.
Je les ai bonifiés, travaillés à la Réunion.
Nous en avions discuté.
Il y a 10 ans, 11 ans.
Et c'est vrai que c'est fondamental parce que des fois, les problèmes, c'est que dans un groupe de vingtaine de gamins, l'entraîneur, il ne peut pas
s'occuper de tout le monde.
En plus, là, il y a le gros, excuse-moi, je vais pouvoir en parler. Là, en ce moment, ce que j'ai remarqué depuis 2-3 ans, on néglige un peu tout ce qui est technique. Les éducateurs, là, je ne le critique pas. Au contraire, ils font du bon travail. Je suis avec eux. On est des amis. En plus, on se connaît tous à Marseille. Mais par contre, dommage que... Ils calquent trop l'entraînement des footballeurs professionnels qui voient sur YouTube.
Ils
calquent ça avec des enfants de 10, 11, 12 ans, alors que ces enfants-là, ils n'ont pas encore le cerveau pour pouvoir emmagasiner leur atelier qu'ils mettent, la passe, triangle, passe. On dirait un code de mathématiques, que des enfants, ils sont là que pour jouer.
Il ne faut pas leur briser la passion.
La passion d'apprendre à jongler, l'ABCD du football, jongler, faire une passe, une rotation, des trucs, jouer de la tête. Les enfants de maintenant, ils ne savent pas faire des jongles de la tête. Les U12, les U13, ils ne savent pas faire 15 jongles de tête. Je les vois que des passes. C'est bien. En match, après, sur les plateaux, il y a des passes magnifiques. Ouais. Mais quand le ballon arrive en hauteur, une retournée acrobatique, j'en vois pas. Ouais. Une tête croisée, piquée qui va dans le deuxième poteau, on n'en voit pas. C'est ça, il faudrait que nous aussi, on n'oublie pas. Nous,
c'est d'ailleurs le reproche qui est fait à la formation française par certains. On fait des baraques, des Tchouaméni, des Camavinga, des costauds, des marathoniens et tout. Mais techniquement, on manque de... Tu le vois en équipe de France, il y a un manque de créativité.
Il n'y a plus de génie.
Le seul qui est actuellement Griezmann parti, c'est Olise. Et Olise, il formait en Angleterre.
Voilà, pas ici, voilà.
Il formait à Crystal Palace. Voilà. Et c'est le seul qui a un côté créatif. Voilà.
Ça fait cruellement défaut parce qu'on préconise le grand costaud qui court vite.
Oui, oui, c'est un gros souci. Ça, c'est dommage. Et je voudrais demander aux éducateurs de revenir un peu à la base.
Eh oui, de la technique.
La technique et de demander aux enfants. Ben, moi, là, il n'y a pas longtemps, ben, pendant mon ami, l'entraîneur principal, m'a dit Paul, qu'est-ce que tu as à dire aux enfants avant le match ? Je leur ai dit juste ça. Les enfants, en partant de la maison, quand vous avez pris votre sac, qu'est-ce que vous avez dit à vos parents ? Je vais aller jouer au football. Oui, bien sûr, oui. Ben là, ben maintenant, les enfants, ce que je vous demande, jouez au football. Amusez, faites-vous plaisir. Je leur ai dit que ça.
Oui. Que dire de mieux, non, que dire de plus,
c'est
le plaisir.
Mais pas jouer en triangle, là, dédoublement, toi, il faut que tu...
faut surtout pas les priver de plaisir. Voilà.
Mais juste dire par rapport à ce que tu viens de dire, Paul, c'est que deux de mes idoles, entre guillemets, de foot, à la fois Platini et Thierry Henry, c'est des mecs qui peuvent toujours expliquer. Platini disait le contrôle.
Oui.
Le contrôle, il est dans la mauvaise direction, tu pars du mauvais côté, tu es mort. Il est dans la bonne direction, il y a but. Voilà. Et Thierry Henry dit la même chose. La qualité technique.
C'est le contrôle qui fait tout.
Voilà, c'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs que, pour revenir juste un mot sur l'OM, le jeune que tout le monde attend, qui est Enzo Sternal, c'est celui qui a le plus de technique footballistique.
Très talentueux.
Ah, c'est techniquement.
Faut pas le perdre, celui-là.
Voilà, il est très fort. Oui. Voilà, après, il faut qu'il devienne physique, il faut qu'il résiste. Mais c'est un garçon, sa qualité, c'est la technique.
Là, c'est la technique, mais il faut pas qu'il perde ça.
Il faut pas qu'il perde ça.
De l'amener, de l'amener où on
a failli le perdre cette année.
Il a dit, il était U17. Il était au championnat d'Europe U17 au printemps.
S'il a empêché de disputer la finale, Gambardella.
D'accord.
Parce qu'il a été sélectionné avec les U17.
Il y avait lui, Yannis Selami et Daryl Bakola. Les trois qui ont signé à l'OM n'ont pas pu jouer la finale à Gambardella. Ils étaient au championnat d'Europe U17. Voilà. Mais d'ailleurs, tu parlais de Jean-Pierre Papin. Oui. Ce week-end, ils ont gagné 3-1 contre Artsiv, les Arméniens.
Ça, c'est des beaux matchs.
Voilà, c'était, paraît-il, un très beau match. J'ai un ami qui est allé. Et le petit-neveu de Maoulida, Kaidan Abdallah, a marqué. Excellent. Il y avait Lafon, qui était le capitaine. Enfin, des jeunes de la Gambardella. Et il progresse avec
Jean-Pierre.
On a demandé
à son tonton.
Là, avec Jean-Pierre, ils vont bien. Là, il y en a un roi, mais j'espère...
Parce que Bakola et Sternal sont très régulièrement dans le groupe de l'OM, le banc. Oui. Après, tu peux les faire rentrer que si l'équipe gagne.
On a quelques pépites qu'il faut conserver, développer et, je dirais, accompagner.
Et leur donner leur chance après.
Absolument. Bon, par contre, je pense qu'on a un peu débordé sur les horaires. Nous allons terminer rapidement. C'est un peu dans nos habitudes. Mais là, nous avons une invitée exceptionnelle qui me fait grand plaisir. Et donc... j'ai aimé jouer le temps additionnel.
Merci.
Oui, merci, donc je voudrais simplement terminer le propos régional. Non, vite parler des féminines, ça va être vite réglé. Nos féminines, donc l'Olympique de Marseille. Évidemment, on n'a pas pu jouer ce match dimanche. Le campus a été vierge, c'est le cas de le dire, puisque les Girondines, joueurs de Bordeaux, la Ligue de Nouvelle-Aquitaine les a relégués en Régional 1 pour des difficultés administratives et financières. Donc, du coup, l'OM est toujours en tête, en D2. Hein. Nous allons attendre la suite leur évolution, avec de belles promesses à venir. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas parlé évidemment, du super coup de... Pas du super coup, c'est une super équipe, quoi. D'Aubagne, tout simplement, qui a fait encore une excellente... Ils ont infligé la première défaite à Boulogne, 3-0, et je trouve ça assez superbe, parce que les joueurs de Flash 16, ils ont vraiment infligé leur première défaite, et ils n'ont toujours pas l'usufruit de leur stade à Aubagne. Il n'y a toujours pas l'installation de l'éclairage, ils sont obligés, eux, par contre, d'aller jouer à Parsemé.
À Istres.
Voilà, alors que Martigues ne peut pas, pour des raisons également techniques, on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est encore le grand n'importe quoi. En tout cas, bravo à Aubagne qui a gagné 3-0 et qui se retrouve donc 7e avec 11 points de championnat de national. Voilà, bon, il n'y a pas un énorme écart avec le haut, hein, puisque Nancy a 15 points, est premier en national. Ils ont juste Dijon et Orléans devant eux, Aubagne, qui ont 11 et 12 points respectivement. Donc, on est au taquet, on est prêt. Et cette équipe est superbe.
Ça sent bon le maintien quand même.
Ah oui,
parce
leur
priorité première année en national, c'est le maintien.
Oui, oui, oui. Et c'est un championnat très compliqué.
Très compliqué. Et mentalement, le fait d'avoir des points, d'être dans la course, ça aide vachement pour des mecs qui n'ont pas l'habitude. C'est un sacré palier, National 2, National,
ah,
c'est
oui,
un sacré palier.
Ah oui, il y a
et là,
une différence
font,
énorme.
Voilà. Contrairement à Martigues, qui est en danger au niveau maintien,
très compliqué.
Aubagne, il semble avoir pris un bon départ qui aidera.
Oui, Martigues, oui, il se retrouve au 17e avec 5 points, qui est avant-dernier du championnat. Le Paris FC étant toujours en tête avec 18 points. Nous parlons de Ligue 2, donc ça va être assez compliqué pour Martigues. Voilà. En espérant de tout cœur des bonnes choses pour nos équipes provençales, pourrais-je dire évidemment pour l'OM. Ouais. Bon, je vais devoir vous quitter. Merci à toutes et à tous. Paul, merci pour tout.
Merci à toi aussi. Merci à vous.
Patrick, toujours la force tranquille auprès de moi.
Et j'ai pas critiqué PSG, vous avez remarqué, hein, les gars.
Mais on le pense tellement fortement que c'était pas nécessaire. Bon,
contre,
en attendant que Thierry revienne parmi nous, hein, voilà, nous vous embrassons toutes et tous. Patrick, tu voulais...
Non, juste après ton anniversaire, j'espère pouvoir te le souhaiter avec une victoire.
Oui.
Et là, je dirais du mal.
Voilà. De Paris. Voilà.
Une tour Eiffel en bleu et blanc. Voilà, ça sera mon cadeau d'anniversaire.
Voilà.
Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.